Jean Lorrain, colloque sentimental pour M. Edmond de Goncourt. Du coin de la fenêtre où elle s'alanguissait, si pâle dans la tiédeur embaumée des coussins, elle le suivait obstinément des yeux, de ses yeux aux paupières flétries, et dont la profonde éraillure, telle des coups de griffe au coin des tempes, proclamait ce jour-là, plus cruellement que jamais, l'indéniable différence d'âge qui les séparait tous deux. Elle, usée, moribonde et vieillie, et lui, encore jeune, robuste et carrant dans une jaquette irréprochable, un torse vigoureux de mâle, encore avide de vivre et de jouir. Jeune encore, certes, mais déjà touché par la vie, l'homme dont la promenade silencieuse, le front buté vers le tapis de haute laine, les mains fébriles croisées derrière le dos, emplissait cette chambre de malade d'un inquiétant va-et-vient de fauve en cage. Certes, oui, déjà touché par la vie, car les cheveux châtains et drus s'éclaircissaient déjà vers les tempes, striés par places de minces fils d'argent, et sous la moustache d'un blond roux, embroussaillée et triomphante, la bouche au coin tiré trahissait elle aussi l'amertume d'exister. Visiblement obsédé, il arpentait à grands pas rageurs cette haute et claire chambre aux aspects de boudoir, avec ses panneaux de moire blémissante, encadrés de délicates boiseries, que coupaient, çà et là, savamment alternées, d'étroites galeries oblongues, enguirlandées de fleurs et de lin, attribut de style Pompadour. Et c'est cette visible obsession, ce réel chagrin trahi par la crispation du sourire et l'inquiétude de ses allées et venues, que surveillaient des yeux de fièvre, deux yeux agrandis où semblait s'être réfugiée toute la vie de son corps souffrant, la malade étendue auprès de la fenêtre, au fond d'un grand fauteuil, encombré de coussins et de peaux d'ours blancs. Du dehors, dans les glaces sans teint des croisées, le jardin du petit hôtel s'encadrait, tout jaune de la rouille des marronniers et de la floraison des héléniums, d'une mélancolie d'adieu, malgré la pourpre vive des dahlias simples et des bégonias doubles, sous la morne jonchée de feuilles de platane pleurant sur les pelouses. Oh, la tristesse de ce jardin parisien d'octobre, se délabrant lentement vis-à-vis l'agonie de cette femme au visage passionné et crispé, au regard dévorant, à la pâleur de morte. Mais combien plus triste encore le silence hostile, gardé par ces deux êtres de luxe et d'élégance en cette somptueuse chambre de poitrinaire, où la nuance adoucit les tentures, le contournement raffiné des meubles, et jusqu'au parfum musqué du lilas blanc, s'entassant là pour étouffer les tenaces relents d'éther et de phénol, semblait vouloir faire une apothéose à la mort. Une liaison pourtant célèbre dans le monde des lettres et du théâtre, et dont le retentissement avait, pendant quelques années, amuser la badauderie de Paris. Cet homme et cette femme aujourd'hui muets, refermés sur eux-mêmes, dans ce quasi menaçant tête-à-tête. Elle, tragédienne acclamée, aujourd'hui brûlée aux flammes de toutes les passions et de toutes les fantaisies, comme au feu de toutes les rampes. C'était il y a 15 ans, en pleine maturité de beauté et de succès, toqué du beau poète à longue chevelure souple, au contralto vibrant qu'il était alors, lui, grand homme, inconnu, frais débarqué de sa province et de la ville vieille échouée à Paris pour y tenter fortune, riche de 25 ans et de ses jeunes illusions. sur la foie de ses larges épaules et de l'eau profonde de ses yeux bleus, frangés de cils noirs, elle avait aimé à la fois en lui l'homme et le poète. S'était enthousiasmée dans sa loge sur la rondeur massive de son cou et dans l'alcôve sur le lyrisme de ses vers. De Morphels arrivait à Paris avec un drame en vers en trois actes qu'il destinait à Duquesnel. Dinah avait lu la pièce, l'avait plutôt écoutée lire, s'était emballée sur le rôle, l'avait imposée à son directeur, et se donnant cette fois toute comme jamais elle ne l'avait fait encore, jouant avec sa chair, ses nerfs et son cœur, avait consacré le drame et fait du jour au lendemain, dans Paris, quelqu'un de se passant apprécié dans son lit la veille. Comment ce caprice de Nina Monteuil, la fantasque des fantasques, était-il dégénéré chez l'actrice en passion ulcérée et profonde? Lors de cette rencontre dont elle devait mourir, Dina entrait dans sa 40e année, l'âge où la femme avertie par les regards moins désirants des hommes voit flamber en elle d'autant plus d'apaisable ardeur qu'elle en connaît la durée éphémère. Comme la phtisique dont les instants sont comptés, elle apporte dans tout son amour, surtout, une fébrile hâte de sentir et de jouir. Et puis, c'est un châtiment des courtisanes de connaître la tendresse amoureuse que tard dans la vie et d'adorer à 50 ans, avec des dévouements et des délicatesses presque maternelles, de beaux gars indifférents qui les trompent avec leurs filles de chambre et renouvellent ainsi l'éternelle et sanglante trahison des sexes vis-à-vis l'un de l'autre, l'éternelle agonie d'une âme par une âme qu'on appelle l'amour. Telle qu'elle était aujourd'hui, étendue dans son long peignoir de peluche blanche roulée dans ses peaux d'our blanc, sa tête d'une pâleur d'ivoire appuyée sur le mauve des coussins, telle qu'elle était, mourante et de la tuberculeuse et d'une affection cancéreuse dans le ventre, la gloire et la fortune de son amant, si préoccupé d'on ne sait quoi auprès d'elle, n'en était pas moins son œuvre et son chef-d'œuvre. Œuvre de 15 ans de lutte et d'intrigue, à laquelle s'étaient attelés corps et âme, mettant en jeu toutes les influences, courant les journaux et les théâtres, tour à tour implorantes et, ce qu'auprès de leur directeur, réveillant chez eux d'anciens souvenirs d'alcôve, faisaient miroiter chez les autres d'illusoires affaires de réclame et d'argent, et cela pour imposer pendant 15 années sur toutes les scènes du boulevard ses drames à lui, le bien-aimé, le favori. Drame exalté d'ailleurs et débordant d'âme et de vie intense, et dont la malignité parisienne accusait l'actrice de répéter les personnages dans l'intimité d'orageux tête-à-tête avant de les vivre. Et Dieu sait avec quelle frénésie de nerfs et de passion, devant le public amusé des premières et la grosse foule des centièmes, intéressée enfin au racontard. Car il la trompait, et c'était de cela qu'elle mourrait bien plus encore que de sacrées de cabotines compromises, presque dès l'enfance et depuis usée dans tant d'aventures et irréparablement surmenée et détruite. Il la trompait, et cela, presque à dater des premiers jours, avec la première venue des figurantes prises derrière un portrait important de théâtre dans l'empuantissement des coulisses. Puis la réputation venant à Morphels avec des camarades à elle, de petites acteuses, sans grâce et sans talent, mais ayant pour elle leur jeunesse, toute ravie, la figurante comme l'acteuse, de chipper l'amant à madame, à une grande qui toucha des feux de 50 louis par soir, quand elles avaient à payer, elles, des 50 francs d'amende, des intrigues mondaines et même de haute galanterie, s'étaient nouées dans la ville de Morfels. Et pour la plupart, des folles, des vicieuses et des oisives. Curieuses de savoir quel goût avait le bonheur de la Monteille, et pas fâchées, les oisives, curieuses de savoir quel goût avait le bonheur. Et lui, enchanté dans sa vanité d'homme et d'auteur de ce bruissement autour de lui, de nos côtés et d'étoffes rares, avait accepté tous les rendez-vous, toutes les provocations, impertinentes ou galantes, s'était rendu à tous les appels, trompant effrontément sa maîtresse pour des femmes qui certes ne la valaient pas, la copiait à la ville comme au théâtre, maladroitement, bêtement, plus fanée, plus fardée qu'elle encore, et qui n'offrait même pas l'attrait de la jeunesse à ses sens fatigués de vigueur. Alors elle l'avait mariée de sa main à une fiancée par elle choisie dans leur milieu le plus cossu, le plus rangé, le plus bourgeois, le plus offrant de garantie. Elle espérait le garder par là. Mais de Morfels, maintenant lancé dans le tourbillon de bonne fortune, classe homme aventure, avait trompé tout simplement sa femme, ou comme il trompait son vieux collage, piétinant maintenant deux âmes au lieu d'une, brisant tranquillement deux existences avec ses coups de tête, de sens ou de cœur. De cœur, cœur de fille, et plus fille que moi encore, à croire que c'est moi l'honnête homme et lui la courtisane, comme il arrivait parfois de dire à Montreuil, dans les moments de lassitude et de rancœur. Et elle pardonnait toujours, la vieille maîtresse endolorie, acceptant tout plutôt que de se passer de ses visites, ne pouvant même en admettre l'idée, attachée à cet homme comme par une sorte d'envoûtement, résignée à toutes les souffrances qui lui venaient de lui, et paraissant l'en aimer davantage, l'aimant au point d'être heureuse d'en souffrir. Cependant, ce jour-là, comme une lièvre de joie, de secrètes revanches flambaient dans le regard attristé de l'actrice. Il y avait un sourire dans ses yeux, dont elle suivait la promenade inquiète de son amant, silencieux et sombre, le front buté vers le tapis. Et tout à coup, elle s'étirait sous ses fourrures blanches, ses longues mains de cire portaient à son visage une gerbe d'anémone du Japon posée sur ses genoux. « Vous souffrez, mon ami !» Sa voix rauque un peu lasse venait de rompre le silence. « Mais non, non, je vous assure !» répondait l'homme sans interrompre sa rageuse promenade. C'est vous qui rêvez comme toujours. À quoi la malade, étouffant un bâillement. Oh, il y a longtemps que je ne rêve plus. Et en haussement d'épaule de son amant. Mais savez-vous qu'il y a des jours où je crois qu'il y a un Dieu? Et comme il était arrêté brusquement. Venez ici, Raoul, commandait la malade et de Morfels, ayant obéi. « Savez-vous pourquoi je crois aujourd'hui en Dieu ?» insistait-elle en le regardant ardemment jusqu'à l'âme. « À cause de ceci. » Et son index, à l'ongle déjà bleuâtre, touchait le poète à la place du cœur. « Elle t'a lâché, hein, et tu souffres à ton tour, pauvre ami. » Et comme l'âme, le visage tout à coup empourpré, et balbutiait, et cherchait une excuse, une défaite. « Mais à quoi bon t'excuser ?» reprenait la voix rauque. « Ne suis-je point au courant de toutes tes folies ? Oh, j'ai beau ne pas sortir, n'ai-je point de bonnes amies pour venir me voir et me faire expier un peu mon succès, mes anciens succès, en m'épinglant des nouvelles sur le cœur ? Bah, j'y suis faite. » Alors elle t'a lâché, cette petite Rodorolle, pour qui depuis 3 mois tu hypothèques ton hôtel, et cela pour un cabot, un horrible cabot du théâtre Montparnasse, presque un figurant. Un beau garçon, comme toi, lâché, elle l'a lâché après t'avoir trompé 2 mois. Et c'est pour cela que tu rôdes ici, avec ces mains nerveuses et ce visage d'assassin, sans pouvoir tenir en place. Encore un peu, tu pleurerais. Avoue que cela te fait mal. As-tu songé parfois au mal que tu m'as fait ? Pour un cabot de Montparnasse, elle appuyait savamment sur les mots. Et pas même bien de sa personne, m'a-t-on dit. Mais il a 23 ans et t'en as 40. Et comme le présent venge le passé, mon pauvre ami, voilà que tu vieillis à ton tour. » Et à son tour, il frissonnait, tout pâle, avec l'humidité montante de 2 larmes prêtes à jaillir de ses yeux. À cette vue, le regard de la Monteuil se brouillait, sa voix s'altérait, et avec un geste de pitié suprême, s'emparant des mains de Morpheus, « Pauvre garçon !» murmurait-elle, caressante. « Cela va commencer aussi pour toi, et tu vas le connaître, l'atroce et long supplice d'aimer sans être aimé. Encore 5 ans, 10 ans, il faudra bien que tu te rendes à l'évidence. Oh, vieillir, quelle cruauté ! Lire dans les yeux d'autrui la pitié, le dévouement, plus jamais le désir. » Instinctivement, l'homme avait ployé le genou, et le cœur, tout à coup fondu dans un attendrissement bébête, il sanglotait comme un enfant, la tête enfouie entre les genoux de cette agonisante, et elle, comme en rêve, continuait son soliloque, tout en promenant ses mains pâles dans les cheveux de son ami. N'être plus aimé, dire que c'est de cela que je meurs, et que c'est de cela que tu mourras aussi. Car je te connais, mon pauvre enfant, toi l'adoré, le fêté des foules et des femmes. Toi non plus, tu ne pourras pas t'y faire. On se résigne à mourir, mais à cela non pas. Car cela, ça n'existait plus. Et tout à coup, avec des inflexions de théâtre dans la voix, « Comme ces beaux cheveux que j'ai connus si souples et si bruns sont devenus raides au toucher, n'est-ce pas qu'ils blanchissent ? Et malgré ta moustache, j'ai bien vu tout à l'heure à droite que tu as une dent qui bleuit. Ça, c'est le commencement. » « Mais tu portes encore beau, et tu en as encore pour 10 ans, je t'assure. Ne pleure pas, mon chéri. » Et comme l'homme, prostré dans sa peluche et ses fourrures, étouffait toujours de sourds sanglots, martelé, on lui dit, sur l'enclume du cœur, « D'autres t'aimeront encore, toi. Tu en aimeras d'autres aussi. » Moi, il y a longtemps que je suis une morte. C'est sur moi que je pleure en pleurant sur vous autres. Pardonne-moi cela. Pardonne-moi d'attrister tes 40 ans, Raoul. Il y a si longtemps que je souffre. J'ai voulu vivre mon chagrin en toi, faire un peu passer en toi de ma vieille âme. J'ai eu tort, je le sais, Raoul. Ne sois plus triste. C'était moi-même que je regrettais. Ton chagrin, c'est le mien. C'était pour rire. Console-toi, mamie. Fin.